Merci d'écouter Radio France Internationale. 21h ici à Paris, 19h en temps universel. Et Clotilde Dumais à mes côtés, son décryptage dans 10 minutes consacré aux tensions entre l'Inde et le Pakistan. Jusqu'où ira l'escalade? Mais d'abord votre journal, Clotilde, bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Il est empêtré depuis des semaines dans le scandale du signal Gate, cette faille de sécurité dévoilée par un journaliste américain. Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, quitte son poste. Il est nommé ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Toujours pas de trêve entre Kiev et Moscou, mais le président ukrainien salue un accord véritablement équitable avec Washington sur les minerais de son pays. Un accord signé après des semaines de négociations et qui, selon Volodymyr Zelensky, crée des opportunités d'investissement significatifs en Ukraine. Dans l'actualité également, un nouveau rebondissement politique en Corée du Sud. Le favori à la prochaine élection présidentielle, Lee Jae-myung, rattrapé par des ennuis judiciaires. Un 1er mai réprimé en Turquie, plus de 400 arrestations et un très lourd dispositif policier pour empêcher les rassemblements à Istanbul. La journée internationale des travailleurs marquée en France par des violences commises contre des élus et militants socialistes. Le ministre de l'Intérieur dénonce ce soir une attaque lamentable et inacceptable. Volodymyr Zelensky salue donc un accord véritablement équitable. L'Ukraine a finalement signé avec les États-Unis un accord sur l'exploitation de ses ressources minières. Les entreprises américaines vont y avoir accès et un fonds d'investissement commun entre les deux pays doit être créé. Accord conclu, Julien Chavanne, dans la douleur.
Il aura fallu des mois de discussions, des allers-retours laborieux entre les équipes américaines et ukrainiennes pour en arriver là. Et cette fois, les deux parties sont satisfaites. Côté américain, Donald Trump a pu annoncer une victoire à l'international pour fêter ses 100 jours à la Maison-Blanche, lui qui voulait une sorte de compensation aux aides militaires américaines pour l'Ukraine. Côté ukrainien, le compromis est beaucoup plus équilibré. L'Ukraine garde sa souveraineté et décidera seule des lieux et des ressources à exploiter. Mais Kiev n'a pas obtenu les garanties de sécurité qu'elle espérait, pas de nouvelles livraisons d'armes non plus. L'accord est purement économique et sa mise en œuvre encore très incertaine. Le potentiel des minerais ukrainiens demeure largement spéculatif. Il faudra d'énormes investissements et du temps. Et puis surtout, certains gisements se trouvent dans des zones occupées par la Russie ou encore sous le feu des combats. Malgré tout, cet accord est un bon signe pour l'Ukraine, un rapprochement souhaitable vu l'état des relations avec les États-Unis.
Et en attendant toujours pas donc d'accord de paix entre Kiev et Moscou, deux personnes ont été tuées en Ukraine dans une attaque russe sur la ville portuaire d'Odessa. Le chef de la diplomatie française annonce ce soir que les Européens préparent de nouvelles sanctions contre la Russie. Vladimir Poutine est le seul obstacle à la paix, dit Jean-Noël Barrot. L'administration Trump, elle, va changer de conseiller à la sécurité nationale. Mike Waltz quitte son poste. Il est nommé ambassadeur des États-Unis à l'ONU, lui qui a été mis en difficulté par le signal Gate, cette faille de sécurité révélée le mois dernier par un journaliste qui a été ajouté par inadvertance dans une discussion sur la messagerie Signal avec des responsables de l'administration qui planifiaient des frappes américaines contre les rebelles houthis au Yémen. C'est le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio qui va remplacer Mike Waltz par intérim. Le quatrième cycle de négociations sur le nucléaire iranien initialement prévu samedi entre Washington et Téhéran est finalement reporté, officiellement pour des raisons logistiques, selon le chef de la diplomatie du sultanat d'Oman qui sert de médiateur. Les États-Unis disent s'attendre à de nouvelles discussions dans un futur proche. Le plus influent chef druze en Syrie dénonce une campagne génocidaire injustifiée contre sa communauté et critique le pouvoir en place depuis la chute de Bachar al-Assad. Au moins 100 personnes ont été tuées en deux jours dans des violences à caractère confessionnel près de Damas. Le ministre israélien de la Défense promet de répondre avec force si les attaques contre les druzes reprennent et que le régime syrien ne parvient pas à les empêcher. Au moins 29 morts depuis cette nuit dans la bande de Gaza, selon la défense civile, après de nouvelles frappes israéliennes. Ce qui se passe dans l'enclave palestinienne est une abomination, estime un haut responsable de l'organisation mondiale de la santé, alors que l'État hébreu bloque depuis deux mois l'entrée de l'aide humanitaire. En Corée du Sud, la saga politique continue. Depuis la crise ouverte par la tentative de proclamation de la loi martiale de Yoon Suk-yeol, les rebondissements se succèdent. À un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle du 3 juin, le grand favori du scrutin et principal opposant à l'ancien président récemment destitué se voit lui aussi, Nicolas Roca, rattrapé par ses ennuis judiciaires.
En quelques heures, la destinée royale d'Ijemyong vers la présidence s'est considérablement assombrie. Le leader du Parti démocrate, ultra favori dans les sondages, devra de nouveau affronter les juges. La Cour suprême a ordonné une nouvelle audience en estimant que le candidat avait enfreint la loi électorale en diffusant de fausses nouvelles durant la précédente campagne. Il risque une peine d'inéligibilité de 5 ans. La course contre la montre est donc lancée, car s'il est jugé coupable avant le 3 juin, le tribunal de Séoul en charge de l'affaire mettra fin à son rêve de présidence. Autre point noir de la journée pour le démocrate, la démission du président intérimaire Han Duck-soo. Premier ministre d'administration conservatrice comme démocrate, il gérait les affaires courantes mais pourrait annoncer sa candidature à la présidentielle cette semaine. Cet ancien ambassadeur à la stature internationale est perçu comme un homme intègre, deux qualités qui manquent à Lee Jae-myung, dont le parcours politique d'élu local a été marqué par de très nombreuses affaires.
Nicolas Rocca, plus de 400 personnes arrêtées en Turquie, à Istanbul, pendant les manifestations du 1er mai, journée internationale des travailleurs. Et les autorités ont déployé plus de 50 000 policiers et paralysé une partie de la ville pour empêcher tout rassemblement sur l'emblématique place Taksim. Istanbul, théâtre d'importantes manifestations déjà fin mars après l'arrestation du maire d'opposition de la ville, Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Erdogan. Milena Buyum est chargée de campagne Turquie chez Amnesty International. Elle a assister aux arrestations d'aujourd'hui.
J'ai dû passer carrément deux contrôles d'identité. J'ai dû prouver mon adresse pour rentrer chez moi, en fait. La ville a été paralysée. Les touristes étaient complètement perdus, en fait, ne savaient pas ce qui se passait. C'était vraiment encore plus excessif que d'habitude. J'ai observé plusieurs vagues d'arrestations et d'usage de force par la police. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était vraiment des restrictions qui ne sont pas légales, en fait. Ça, je peux le dire sans hésitation.
En France, 150 000 personnes ont manifesté, dont 32 000 à Paris, selon la police. La CGT, elle fait état d'environ 300 000 manifestants pour ce 1er mai, dont un tiers dans la capitale française. La CGT qui salue une grande réussite, même si des élus et militants socialistes ont été violemment pris à partie. Nous ne laisserons rien passer, a prévenu le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui assure que des dépôts de plaintes sont en cours. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dénonce une attaque lamentable et inacceptable. Les syndicats eux se sont organisés en ordre dispersé cette année. La CFDT s'est elle aussi retrouvée en plein centre de Paris, mais au Forum des Halles, pour échanger notamment sur des questions liées aux conditions de travail, sujet que Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, veut remettre au centre du débat public.
On a voulu vraiment mettre l'accent sur ce qui occupe et préoccupe les travailleurs et les travailleuses au quotidien, qu'on parle de leur travail, qu'il soit reconnu, qu'on reconnaisse qu'il y a besoin de dignité au travail. Et il y a aujourd'hui beaucoup de questions qui restent sans réponse. On a applaudi les soignants, on leur a dit qu'ils allaient être reconnus, on a essayé de sortir de la lumière les travailleurs invisibles, ce qu'on appelait aussi les travailleuses essentielles. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions qui sont sans réponse. Et on ne peut pas juste dire aux travailleurs et aux travailleuses attendez la prochaine fois, parce que là, on a plutôt un problème de budget ou les employeurs qui nous disent que la crise économique actuelle ou les inquiétudes qu'ils peuvent avoir face aux interrogations ou aux différentes sorties que peut avoir le président des États-Unis. Enfin, je pense que le temps social, c'est maintenant et qu'il y a besoin de considérer différemment le travail. C'est pas juste une variable d'ajustement.
Un propos recueilli par Anne Verdaguet. L'extrême droite, de son côté, s'est réunie dans le sud de la France, à Narbonne, devant quelques milliers de manifestants. La figure du Rassemblement national, Marine Le Pen, a appelé ses partisans à utiliser les élections municipales l'an prochain pour se lever contre ce qu'elle qualifie d'entreprise de confiscation de la démocratie. Marine Le Pen, récemment condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, elle sera jugée en appel en 2026. Et puis aux États-Unis aussi, des rassemblements sont prévus pour ce 1er mai, même si ce n'est pas vraiment une tradition habituellement. Des organisations de gauche ont appelé à manifester contre la politique de Donald Trump. Plus de 29 degrés aujourd'hui à Londres, record de chaleur battu au Royaume-Uni pour un 1er mai. Ça devrait être le pic de cette vague de chaleur. Le mois d'avril a aussi été le plus ensoleillé enregistré dans le pays depuis le début des relevés météo. Elle est justement britannique, la nouvelle doyenne de l'humanité. Elle est âgée de 115 ans et elle succède à une religieuse brésilienne qui détenait jusqu'à présent ce record et qui est décédé à l'âge de 116 ans. Et puis en tennis, mauvais signal pour la numéro 2 mondiale. Iga Swiatek, la polonaise, a été sèchement battue en 2-7 par Coco Gauff en demi-finale du Masters 1000 de Madrid.